tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Auditeur de Tranche de Vie, Alice est une amie que j'ai rencontrée aux Antipodes il y a un peu plus de 30 ans. Elle est de retour en France. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est de retour en France? C'est parce qu'Alice vient souvent en France. Elle est australienne et elle va nous expliquer ce qu'elle fait. Alice, bonjour et merci de parler aux auditeurs de Radio Libre en Périgord. Qu'est-ce que vous venez faire en France?
Cette fois-ci, Jean-François, je suis venue faire un stage pour les professeurs de français. Ça a duré 2 semaines. C'était à Tours. Et c'était très bien comme professeur de français de faire une formation aussi intense et bien organisée que celui que j'ai fait à Tours. Donc ça, c'était le début de mon voyage. Il faut dire que chez nous, c'est l'été. Donc, j'ai quitté l'Australie le 4 janvier, en plein été. Et le stage a débuté le 7, je pense. Oh non, le 9. Parce qu'il faut dire que chez nous, il faut pas mal d'heures d'avion pour arriver en France. Et en plus, on a eu des retards. On a eu 18 heures de retard dans ce vol. Donc, après l'arrivée, je suis allée à Tours. Et je suis restée avec une dame au centre-ville. Et puis tous les matins, j'allais en cours. Et puis on avait cours entre 8h30 et à peu près 6h du soir, tous les jours. Donc ça, comme j'ai dit, c'était bien. On faisait de la langue française. On faisait des cours sur la culture, sur les actualités. Et puis pas mal sur l'informatique aussi. Voilà.
Et... Ce stage à Tours, il t'a quand même laissé la possibilité de prendre un petit peu de vacances. Qu'est-ce que tu as fait après?
Après le stage, oui, bien sûr, j'ai décidé de rester parce qu'il y a tellement de choses à voir. Donc, je suis allée voir quelques châteaux dans la vallée de la Loire, Chenonceau et Chambord, et puis le château d'Hergé. Et qu'est-ce que c'est la maison de Georges Sand.
Tu veux dire le château qui a servi de modèle pour Moulinsart, oui. Pour les albums d'Hergé, c'est oui, ça oui, que tu veux oui, dire, des albums oui. De Tintin.
Ah oui, d'accord. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'était fort intéressant. Et puis, de très, très beaux tableaux. C'était intéressant comme château. Et puis, de comparer les deux aussi. Enfin, ils ont fait beaucoup de choses à Chambord avec le jardin. Ils ont vraiment commencé à faire un quelque chose d'extraordinaire, là, je pense. J'aimerais bien le revoir dans 10 ans pour voir le changement.
C'est pas toi qui as mis le feu à Chambord, là, puisqu'il y a eu une tentative d'incendie, un début d'incendie il y a quelques jours, qui a été allumé par des touristes.
Hein?
Tu n'es pas au courant?
Pas du tout.
C'est des touristes qui ont mis des bûches dans une cheminée. Il y avait un feu et ils ont mis des bûches dans une cheminée et ça a pris feu.
Ah non, c'était pas moi, je n'étais pas là non plus. Hein. Mais pourtant, ces cheminées, elles sont tentantes. Hein. Elles sont tellement énormes. Mais non, ce n'était pas moi. Voilà. Et qu'est-ce que je fais bien sûr, je suis allée à Paris. J'ai vu des expositions à Paris. Et je me suis beaucoup promenée. C'était bien de voir Paris sous la neige. Ça, c'était exceptionnel. Et puis même de se promener au jardin de Luxembourg avec la neige, d'une beauté... extraordinaire. Puis je suis... Parce que j'aime beaucoup les pays francophones, donc je suis allée en Suisse un peu, à Genève, encore pour découvrir. Et puis là, je suis de retour et je descends dans le Périgord.
Mais tu es allé à Lisbonne aussi?
Oui, mais ça, c'était un autre week-end pour partir à Lisbonne. Il faut dire que pour nous, les distances ne paraissent pas très loin. Ne paraissent pas très loin, alors.
Quand tu es en
Lisbonne-Colombie,
Europe,
ça
tu as
va.
l'impression d'être dans un petit pays et tu vas d'un pays à l'autre sans difficulté.
Enfin, il y a une facilité de voyager, surtout avec les vols pas chers. Une facilité, je trouve. Et on en profite. Oui, Lisbonne, c'était pour le week-end dernier. Et là aussi, c'était des promenades, la découverte. Et bon, essaye de parler un peu en portugais pour ne pas être mal poli. On a fait ce qu'on pouvait faire.
Bon,
Manger beaucoup.
j'ai entendu que tu connaissais trois mots, c'est bien, c'est un bon début.
C'est le début, c'est le moindre des choses, en fait. De dire merci, oui, non, et au revoir aux gens. Ça aide, oui.
Bon, alors maintenant, quand même, tes vacances sont finies.
Ah oui,
Ou presque. Tu vas
malheureusement.
retrouver l'été australien.
Oui, je rentre chez moi mercredi prochain. Je rentre chez moi. Et heureusement, la grande chaleur, elle est finie parce qu'on a eu des journées de 40, il paraît, en janvier. Quand il y avait le tournoi de tennis à Melbourne, il faisait très très chaud, mais maintenant, c'est devenu plus raisonnable, je pense, entre 28 et 34. Peut-être pendant janvier. Pourtant, en février, on peut avoir des journées très chaudes. Mais je vais voir.
Quelle chance tu as de retrouver l'été là-bas. Mais dis-moi un petit peu, explique un peu à nos auditeurs comment tu es devenu prof de français.
Prof de français. Bon, j'ai fait des études ici, à Paris, et je pense que c'est le plaisir d'utiliser la langue. Je voulais partager Je voulais partager la langue avec des gens, enseigner la langue et puis tout ce qui va avec une langue, une culture, une façon de vivre. Je voulais partager ça. Et aussi dans ma quotidienne, bon, dans la famille, il n'y a personne qui parle français. Donc, comme prof de français, je peux parler français tous les jours. Ça, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Et c'était une carrière. Il faut dire que s'il y a des gens qui cherchent du travail en Australie, si on a les qualifications d'être de professeur, il y a toujours du travail pour les profs de français en Australie.
Oui, mais
Toujours.
je croyais que la langue française était en train de décliner l'enseignement de la langue française et puis l'utilisation de la langue française déclinait plutôt en Australie. C'est vrai ça? Non? Toi, c'est pas ton point de vue?
Je dirais non, hein. Je dirais le contraire. Bien sûr, le chinois, c'est la langue la plus apprise, mais après le chinois, c'est le français, en fait. Ça dépend des États. Moi, je suis dans l'État du Victoria. Chez nous, il faut dire que le français est plus fort que dans les autres États, mais disons qu'on a une tradition où le français était enseigné en Australie. C'est une langue bien respectée, et bien sûr, les élèves trouvent que c'est difficile, mais. Et je pense que la France a toujours quelque chose d'attirante pour nous. Donc, et la langue est.
Tu veux dire que la France a une bonne image en Australie, ou
Très.
malgré tout ce qui s'est passé dans un passé quand même relativement récent, l'opposition aux essais nucléaires, not in my backyard, etc.
Oui, je dirais que la France est toujours bien vue. Bien sûr, il y a eu des moments un peu difficiles, très difficiles. Mais la France est toujours bienvenue et puis c'est toujours une destination visée par les Australiens. Parfois parce qu'ils ont eu des grands-parents ou les arrière-grands-parents qui ont fait la guerre ici. Donc pas mal de souvenirs de famille. Les gens peuvent venir pour juste voir où leurs ancêtres ont fait la guerre. Et puis. Les gens s'intéressent à l'art, s'intéressent beaucoup à la cuisine et encore plus au vin. Donc c'est un pays à visiter et toujours très très coté par les Australiens. Bon, bien sûr, il y a l'Asie,
Ce
mais.
souvenir de l'engagement de l'Australie dans le premier conflit mondial
Voilà, le deuxième.
Dans le deuxième, oui, bien sûr, est resté très vivace.
Très, très. Il y a les monuments et puis parfois, comme nous, on va à la campagne. Dans chaque petit village chez nous, il y a toujours un monument aux morts. Et c'est bon, il y a une population énorme de jeunes, d'hommes très jeunes qui sont partis ici à la guerre et qui ne sont pas revenus. Donc, dans chaque village, je dirais, il y a peut-être 40% de la population est... Non, ça c'est une exagération, mais 40% des hommes entre parfois 16 ans jusqu'à 30 ans
ne sont pas
revenus.
Des jeunes hommes.
Oui, donc les fermiers, vraiment, ça a dû marquer les communautés, beaucoup.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes origines familiales? Est-ce que ta famille, autant que tu le saches, est fixée en Australie depuis longtemps? Est-ce que vous êtes des descendants de convicts? Est-ce que vous êtes des descendants de colons?
Qu'est-ce qu'on a? Bon, pour ma mère, enfin, on connaît peu en fait nos origines. Côté de ma mère, c'était des Anglais qui sont venus et je ne sais pas qui, mais le premier était un boulanger et il est venu comme boulanger. Il est arrivé à l'ouest et puis il a fait le voyage pour aller à l'est et il s'est installé dans le commerce, les petits commerces.
Tu veux dire qu'il est arrivé à Perth, par exemple?
Oui, à Perth. Oui. Il est de Fremantle. Il est à Fremantle. Et puis je ne sais pas comment ils sont venus à Melbourne. Mais je sais qu'à Melbourne, ma grand-mère m'en a parlé. Je sais qu'à Melbourne, il montait une boulangerie, puis quand la boulangerie est devenue assez réussite, on dit ça?
Oui, elle a bien marché, oui, elle a réussi.
Marché, il la vendait puis pour établir une autre. Mm-hmm. Donc c'était un peu un petit entrepreneur de boulanger.
Très bien.
Et puis côté de...
Alors du côté de ton père, tu m'as dit que ton père, il avait une grande originalité par son origine.
Oui.
Hein? Dis-nous-en un petit peu plus.
Mais je découvre les choses à propos de mon père. Mon père, de ma connaissance, était journaliste. Enfin, il est néo-zélandais. Donc, il est venu à Melbourne, en Australie, pour le travail. Parce que pendant ce temps-là, on ne trouvait pas énormément de travail en Nouvelle-Zélande comme journaliste. Mais lui, en fait, il vient d'une petite île très, très, très isolée. Dans les Chatham Islands.
Mais... Alors, je précise hein, pour nos auditeurs qui auraient un petit peu oublié leur géographie, que le groupe des Chatham, c'est un archipel qui se trouve au large de la Nouvelle-Zélande, à peu près 800 km des côtes de la Nouvelle-Zélande. Et dans cet archipel, il y a une petite île qui s'appelle Pitt Island, et d'où le père d'Alice est originaire.
C'est vraiment loin, 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 loin. Et l'île... Elle est assez petite et la famille est toujours là, mais quand on parle de mon père, on dit que c'est lui qui est parti. Juste pour montrer un peu la mentalité des gens, ils sont très attachés à leur île et ils ne comprennent pas, j'imagine, pourquoi quelqu'un a décidé de partir.
Oui, on lui en veut un petit peu d'être parti.
Juste, il est différent. Ah. Il est différent. Et eux, ils voyagent beaucoup, ils voyagent partout, ils viennent... Bon, la famille, je veux dire, ils viennent d'Angleterre pour le Chelsea Flower Show, ils s'intéressent à beaucoup, beaucoup de choses. Ce ne sont pas les gens qui ne voyagent pas, mais ils rentrent toujours sur l'île. Mais lui, il a décidé de faire sa vie hors de l'île, et en Australie en plus. Donc, il faut dire que l'île est isolée. Il y a un avion, une fois par semaine... qui va de Chatham pour aller à Pitt, un avion par semaine, avec peut-être 4 places, donc une petite avion. Et s'il fait très mauvais, on ne peut pas prendre l'avion. Mais pendant le temps de mon père, c'était un bateau. Donc, s'il y avait la tempête, on ne pouvait pas quitter l'île. J'ai il paraît, un cousin qui est mort parce qu'il ne pouvait pas aller à l'hôpital. La tempête était tellement féroce, elle est morte d'un appendicite sur l'île. Donc, pour montrer un peu l'isolement de cette île. Mais ce sont les gens ouverts au monde. Et puis, il y a des touristes qui y vont parce que là, sur l'île, il y a un oiseau. En anglais, c'est Black Robin, un oiseau très rare. Donc, les gens qui s'intéressent aux ornithologie, y vont pour voir cet oiseau très rare. Et il y a même un hôtel dans le village de Flowerpot, the Flowerpot Hotel, où on peut passer la nuit si on veut aller voir ces oiseaux.
petit oiseau, le petit rouge-gorge, en fait, à noir-gorge de Pete Island.
Oui, voilà.
Et alors, les Pete Islanders, de quoi vivent-ils?
Mais ils vivent de la pêche. Ils ont des langoustes à portée de main et ce sont des pêcheurs, en fait. Et parce que le prix des langoustes, les langoustes, c'est un produit de luxe, donc ils vivent très bien. Ils vivent très très bien même.
Maintenant,
donc d'être journaliste, c'était un peu différent.
D'accord,
pas
la bonne
tradition.
Voie. On va parler maintenant peut-être un petit peu d'abord de ta vie de professeur, qui t'amène souvent en France, puisque tu viens faire des stages ou bien tu viens accompagner des élèves en voyage comme ça d'immersion linguistique en France, et ce qui fait que tu connais très très bien notre pays. Mais tes élèves, quelles sont leurs motivations pour s'intéresser au français? Ce sont des élèves de quel niveau que tu as? De quelle classe?
Mais nous, pour apprendre le français, ça commence à la maternelle et jusqu'au bac. Ce n'est pas obligatoire, mais où je suis, c'est une école de filles où je suis. Les petites, elles commencent à l'âge de 4 ans à apprendre le français. Donc, ce n'est pas un choix pour elles. Elles le font. Continuer, c'est un choix à partir de 12 ans, je vais dire. Et pourquoi est-ce qu'elles continuent? Bon, parce qu'elles aiment, parce qu'elles veulent voyager, parce que les parents veulent, parce que c'est un défi parfois. Et vraiment aussi pour nous, si on fait une langue étrangère, on a des points de plus pour le baccalauréat. Donc parfois c'est stratégique. Parfois, c'est le plaisir. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons, en fait.
Et tout à l'heure, tu parlais de l'enseignement du chinois. On a l'impression, de loin, que ton pays, l'Australie, est de plus en plus attiré dans l'orbite des pays asiatiques, comme la Chine, l'Indonésie, la Corée, bien sûr, le Japon. Il y a des investissements importants. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que les liens avec l'Europe sont en train de se distendre?
Je suis pas experte, mais je dirais aussi il y a pas mal d'industries françaises qui ont acheté des industries australiennes. Par exemple, le transport, Alstom,
ouais.
Nos trams sont françaises et puis il y a l'association assurance là,
AXA. Oui.
Elle est bien en France, puis... Oui, beaucoup d'industries françaises. Bon, le vin, déjà, il y a des Français qui ont acheté des vignes en Australie pour dire que l'Europe n'est pas oubliée.
Oui, mais les investissements japonais et puis maintenant chinois sont quand même très importants.
Oui, mais je ne suis pas experte. Oui. Je dirais chinois, mais on en parle... c'est moins visible. C'est moins visible, mais les Français ils sont là, hein, les Français. Oui. Mais bien sûr, l'Australie se trouve en Asie, et même avec la colonisation européenne, il y a beaucoup d'attaches vers l'Europe, mais la géographie fait qu'en effet, on est entre les deux, entre l'Asie et l'Europe.
Est-ce que ta connaissance, il y a toujours une émigration européenne, mais en particulier britannique, régulière, qui se fait vers l'Australie?
Je pense, oui, je pense. Aussi, pour les jeunes, il y a le Working Holiday Visa. Il y a beaucoup de jeunes, je pense que c'est moins de 35 ans, de France, des Espagnols aussi, des Italiens aussi. Beaucoup de jeunes qui passent un an, qui essayent de rester. Si on travaille à la campagne, on peut rester 2 ans. Avec un visa. Et puis, il y a des démarches, je pense, pour avoir un visa permanent. Je ne sais pas comment exactement. Donc, on attire les jeunes asiatiques, mais aussi les Européens. Et pour les Britanniques, autant que toujours, je pense.
Alors ça, c'est l'émigration, qu'on va dire, licite, légale. Mais est-ce qu'il y a un problème de migrants, un problème d'arrivée de migrants clandestins en Australie? Parce que Il y a eu quelques histoires qui ont un petit peu défrayé la chronique ces dernières semaines, là, ou ces derniers mois, avec l'arrivée massive, des arrivées assez massives de migrants asiatiques.
Chez nous.
Oui. Bah, pendant un moment, il y avait le problème des boat people vietnamiens.
Ah, mais il y a bien
Et
longtemps,
oui,
ça.
mais plus récemment, il y a eu aussi quand même, il y a quand même pas mal de problèmes
Ah, mais...
où vous avez organisé des camps pour mettre les
Ah,
migrants.
oui, mais c'est les gens d'un peu partout. C'est pas simplement les
Oui,
Asiatiques.
oui.
C'est les
Ah.
gens qui passent par l'Asie pour entrer en Australie.
Oui, et qui sont de quelle origine alors?
Parfois du Moyen-Orient, parfois de l'Afrique, oui. Mais pas d'Europe, je pense. Pas d'Europe. Et c'est très, très contrôlé maintenant. Très contrôlé. Les frontières, parce que c'est une île, les frontières sont facilement, je dirais, facilement surveillées. Et puis, il y a les accords entre les gouvernements du coin.
Facilement surveillées, mais elles sont longues hein, quand même, les frontières de ce que tu appelles une île, c'est une grande île, hein.
Ouais, maintenant, c'est très efficace. Hein. C'est efficace avec la marine et l'armée de l'air. C'est très bien, c'est vraiment surveillé. C'est surprenant, mais c'est surveillé. Et qu'est-ce que j'allais dire que... Oh, j'oublie ce que j'allais dire.
Au sujet des migrants, alors peut-être que ça te reviendra, mais
Ah,
maintenant.
que ces histoires des gens qui arrivent en bateau, qui sont arrivés en bateau, on n'en entend plus. Hein? Depuis peut-être 3 ans. Puis il y a des accords avec les gouvernements dans la région, comme quoi les gens qui veulent atteindre la terre en Australie sont dans les endroits entre les deux pays. Enfin, je comprends pas trop que, par exemple, en Nouvelle-Guinée, il y a des gens qui sont là, qui veulent venir en Australie, mais qui sont... C'est quoi le mot où on met les gens?
Et qui sont dans des centres de
Voilà,
rétention.
c'est ça.
Oui.
Qui sont dans les
Oui, comme
centres.
à Manu, comme à Nauru
Oui,
aussi,
voilà. Dans les centres
à
où...
Christmas, où il y a eu quand
Oui,
même des
Christmas
problèmes.
Island, oui. Oui, il y a des problèmes, c'est sûr. Mais pour vérifier le papier, pour vérifier vraiment aussi l'histoire.
Leur situation est examinée dans ces centres de rétention.
Oui.
On va laisser de côté ce problème délicat. Est-ce que, alors pour en terminer, peut-être en gardant un œil sur cette arrivée de migrants. Est-ce que ton pays t'apparaît comme un pays plus multiculturel aujourd'hui que l'Europe?
Oui, je dirais oui, je dirais oui. Et puis on aime croire que tout le monde est bien accepté aussi. On fait un effort pour accueillir les communautés, on fait un effort.
Pour les intégrer, oui.
Oui, mais je dirais pas que c'est toujours réussi à 100%, mais on fait un effort et c'est ancré dans la loi. On n'a pas le droit à discriminer contre les gens pour leur race, pour leur religion, pour
Oui, mais ça,
leur...
c'est le minimum
Oui,
qu'on peut
voilà.
attendre d'une démocratie. C'est une
Oui.
démocratie, l'Australie.
Oui, oui,
Oui.
oui, oui.
Ouais.
Oui. Non, oui, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Oui, bien sûr, bien sûr.
Bon,
Oh
très
non,
bien.
c'est une démocratie. C'est une
Très bien.
démocratie. Enfin, le vote est obligatoire chez nous. Il faut voter chez nous.
Oui.
On n'a pas le droit de ne pas voter.
Ça, c'est une originalité intéressante à entendre dans un pays comme le nôtre. Je voudrais qu'on passe maintenant rapidement puisque tu es une grande voyageuse, tu as beaucoup voyagé aussi dans ton propre pays. Et donc, tu connais bien l'Outback. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui, en Australie, t'attache à ce pays? Ce grand pays vide où tout le monde est installé sur les bords et puis au milieu, il y a un énorme vide, mais qui est aussi plein d'attraits.
Mais ce sont les histoires de nos enfances. On a toujours entendu de l'intérieur. Tout le monde a peut-être est allé peut-être une fois, peut-être plus, pour voir le grand rocher au centre. Et puis, c'est l'image qu'on a de nous, quoi.
Le Grand Rocher, c'est Uluru,
Uluru,
oui,
oui.
oui,
Uluru,
oui.
c'est l'image de nous. C'est un pays, même si on habite les villes, c'est un pays où on pense être vraiment à la campagne. C'est bizarre, mais c'est comme
Tu
ça.
veux dire à l'abri, loin des bruits et loin des risques, des dangers du reste du monde?
Non, non, c'est pas ça. C'est
Non?
plutôt l'espace,
Oui.
d'avoir de l'espace.
Oui.
Et le vide. On dit le vide.
Oui, le
Oui,
vide, le vide,
c'est
oui.
ça
Oui,
que...
bah, c'est vrai que l'espace est devenu un luxe hein, sur notre Terre.
Ah
Pour un Chinois ou pour un Japonais, l'espace est un luxe.
oui. Oui, mais pour nous aussi, dans nos grandes villes. Mais dans notre esprit, on a cette idée d'espace. puis une terre qui n'est pas facile à vivre, puis la sécheresse, puis la chaleur, puis la beauté de ces endroits peu peuplés, et puis avec un paysage pas, enfin, riche, mais il faut vraiment examiner. Elle est très riche, mais il faut bien regarder. C'est ça, hein?
C'est bien ça. La connaître pour l'apprivoiser comme les aborigènes, les premiers occupants de ce grand pays avaient su apprivoiser la nature hostile de l'Australie. Je voudrais, pour terminer, chère Alice, te demander si tu as d'autres passions que d'apprendre le français. Alors, tu nous as parlé des expositions que tu allais voir quand tu viens à Paris. Quelles sont tes passions en dehors du voyage et...
La randonnée, je peux dire la randonnée ?
Oui.
J'aime bien la randonnée. On a fait un petit bout de Saint-Jacques-de-Compostelle il y a quelques années. En Australie aussi, on fait pas mal de randonnées. Puis aller faire du camping sauvage à la campagne, c'est juste trouver une rivière, puis peut-être en canoë parfois, puis de mettre la tente et puis passer deux ou trois jours comme ça.
C'est encore possible dans les grands espaces de l'Australie, de faire du camping sauvage,
absolument.
Ce qui est devenu une sorte de luxe ici, une rareté en Europe.
Absolument, oui, absolument. Pas de problème. Oui, juste il faut qu'est-ce qu'on dit ?
S'approvisionner.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Avoir assez à manger, puis un sac de couchage, une tente. Oui, absolument. Voilà, ça, je suis un peu coincée parce que là, on a la rivière qui est la frontière entre le Victoria et le Nouvelle-Galles du Sud. Alors moi, mes endroits préférés, en fait, sont au bord de cette rivière-là, oui, pour faire du camping.
Il s'appelle comment ?
The Murray River.
Murray River.
Murray River, oui. Et aussi, on a, on va dire, nous, on les appelle les Alpes. Ce ne sont pas les Alpes que vous avez ici, mais là aussi, il y a des endroits vraiment très, très isolés. Et on a un endroit où on fait très souvent du camping. Il faut pas beaucoup de marche, peut-être 2 heures. Et on peut être là tout seul pendant 3 jours sans voir personne.
Que ton mari ou tes amis avec lesquels tu es parti te balader dans la nature.
Super. C'est vraiment super. C'est là, en fait, où on va quand on a 2 jours de libre, si on veut partir très vite. Très vite. Et parce qu'on connaît le coin, c'est facile à trouver. Oui, voilà. Il faut venir un jour.
J'aimerais y revenir et en attendant. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.